qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez...
No problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève,
c'est qu'il y a pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
De réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il doit y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Attendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Radio Canu, si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Enfin, il n'y a jamais de grande et de petite heure, en fait. Hein. C'est soit c'est 60 minutes, soit c'est 59, soit c'est 61. Hein. Et à 60 minutes, nous avons donc une heure. Tout ça pour vous dire que vous êtes donc à l'écoute du Canu Info avec l'équipe du jeudi. Bonsoir à toi, Laurent.
Bonsoir, Delphine.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons parler de plein de choses hein, ce soir. Nous allons avec Laurent parler de la France contre l'Italie, contre l'Europe, contre les migrants. Non, ce n'est pas du football, mais bien d'un sujet sérieux dont nous allons parler. Nous reviendrons toujours avec Laurent sur Eurosatory, un grand moment militaire, n'est-ce pas ? Je reviendrai très rapidement sur ce sommet qui a permis la rencontre de deux machos. Je cite M. Kim et M. Trump.
Dans le cadre du festival Patriarcat
voilà, international.
International de domination du monde.
Fais péter ta diplomatie, ça s'appelle. Nous irons ensuite faire péter une autre diplomatie en Israël et en Palestine. Nous aurons ensuite une partie plus axée sur les profiteurs et sur l'économie. Je vous donnerai ce soir une bonne raison de passer sous Linux. Oui, ça sera ma petite chronique propagande. Voilà. Et oui, vous avez écouté le Canu Info du jeudi, donc il y a de la propagande, bien évidemment.
Ah bon?
Non,
je suis pas d'accord. On fait de l'information, voilà, sans prendre parti, tout ça, comme BFM.
Non, mais je voudrais arriver à convaincre les gens de quitter Microsoft Windows. Nous irons faire un petit tour vers la grande récré. Quels sont les magasins qui vont fermer?
Ah, parce que ça ferme.
Ah bah c'est un peu plus compliqué. Ça ferme et ça ouvre. Enfin, ça survit, on va dire. Et puis nous terminerons, si nous avons le temps, avec les fabricants de tabac, ce que nous appelons les cigarettiers, qui ont été au ministère aujourd'hui. Oui. On va se demander si ça a servi vraiment à quelque chose ou si le lobbying des cigarettiers est aussi important que d'habitude.
Donc je vais ouvrir ma page La France contre l'Italie, contre l'Europe, contre les migrants. Et en fait, c'est... grosso modo, tout le monde contre les migrants, quand même, au final. Mais je vais recommencer à rappeler un petit peu les circonstances de ce qui se passe, notamment de l'arrivée de ces deux forces qualifiées d'eurosceptiques, hein, parce que c'est le terme un peu facile à utiliser quand on parle des fachos de la Ligue, par exemple, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, ou des populistes limite fachos du mouvement 5 étoiles, hein, qui ont fait une partie de leur propagande électorale contre les migrants aussi. Donc je vais parler d'eux, je vais rappeler en fait d'où, essayer de comprendre d'où, comment ils ont fait pour arriver au pouvoir ces gens. Alors on sait très bien que, je viens de le dire et j'en reparlerai après parce que ça va être la transition avec la suite, que la question migratoire a joué un rôle important dans cette élection, cette dernière élection en Italie et puis les précédentes, ça a commencé à venir. Il faut dire que l'Italie, de par sa configuration et son positionnement dans la Méditerranée, c'est une des grosses portes d'entrée, voire la plus grosse aujourd'hui avec la Grèce, porte d'entrée des migrants dans l'Europe de Schengen. Donc l'Italie est confrontée effectivement à une arrivée importante de personnes. Ils ont demandé de l'aide, ils n'en ont jamais eu. Hein. Il faut quand même voir les choses comme ça. Bon, mais en fait, ça a servi sur la fin de la campagne électorale et c'est le discours classique de la Ligue, autrefois la Ligue du Nord, hein, de Matteo Salvini. Mais en fait, il y a ce qui notamment explique la montée du mouvement 5 étoiles, hein, fondé par l'humoriste populiste Pepe Grillo, c'est bien autre chose. Et ce bien autre chose, c'est l'économie qui a joué un grand rôle, notamment dans le côté eurosceptique des deux formations, parce qu'il faut remettre un petit peu les choses en perspective. Voilà. Donc, on peut constater quand même, et on peut penser, parce que constater c'est un peu plus difficile à vérifier, que l'économie a joué un rôle important, notamment les politiques d'austérité qui sont imposées dans la zone euro, on va dire, depuis le début des années 90 et peut-être même marquées par l'arrivée et la mise en œuvre du traité de Maastricht. On rappellera quand même que l'Italie avait de grosses difficultés internes très anciennes, liées notamment à un problème d'efficacité de l'État, liées à un gros problème de corruption, notamment en grande partie par la mafia. Mais tous ces problèmes que l'Italie avait n'ont pas pu être résolus, plutôt, si je parle français, à cause des politiques mises en œuvre depuis la signature et la mise en place du traité de Maastricht. Et l'Italie, c'est un peu l'exemple typique avec la Grèce récemment, mais la Grèce, ils ont été vraiment stigmatisés, ils avaient plus de problématiques personnel aussi, parce qu'ils avaient triché, etc. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est un petit peu différent, et en tout cas, on va parler de ces politiques mises en œuvre depuis le début des années 90. Voilà. Alors, si on regarde, hein, depuis justement 90, 92, ça fait à peu près donc du coup 25 ans, un peu plus de 25 ans, en fait, tous les gouvernements italiens, il n'y en a aucun qui a fait exception, ils ont tous mené de strictes politiques d'austérité budgétaire. Bien pire, hein, que l'Allemagne de ces dernières années, qui a eu une politique très stricte, bien pire que tout ce qui a pu être demandé à la Grèce. En fait, l'Italie, c'est le bon élève des politiques d'austérité, c'est l'exemple parfait, voilà. On a mis en œuvre exactement ce que demandait l'Europe de l'austérité. Alors, au départ, hein, il faut rappeler, ils avaient, et ça s'est dégradé, donc on va voir que ça ne marche pas l'austérité, une grosse dette publique. Hein, aujourd'hui, c'est à peu près 132% du PIB. On rappelle que ce n'est pas si énorme que ça. Hein, c'est le PIB, c'est la quantité de richesse qu'un État dégage sur une année. Et être endetté de 132%, c'est pas si gros que ça. Imaginez quelqu'un, voilà, qui achète un appartement, qui devient propriétaire, il va emprunter sur 20, 25 ans maintenant, et il s'endette à 300 ou 400 ou 500% de son propre PIB. Et ça pose aucun problème. Hein, donc c'est une instrumentalisation de dire toujours que cet endettement est problématique. Hein, ça ne l'est pas forcément. Ce qu'il est, c'est peut-être le non-remboursement des dettes, le non-remboursement, on paye les intérêts et ça suit des cours et c'est compliqué et ça coûte cher finalement. Au peuple, parce que c'est le peuple qui en prend plein la gueule à la fin. L'Italie, c'est l'exemple typique, hein, de l'absence de laxisme budgétaire. Ils sont vraiment dans les clous depuis de nombreuses années. Mais conséquence de tout ça, la croissance du PIB est très faible. Donc le pays ne s'enrichit pas. Alors c'est un discours un peu libéral de dire ça, enfin un peu capitaliste, hein, de dire ça, mais ça a un impact important sur les politiques dans ces sociétés capitalistes telles que c'est le cas en Italie. Et il y a un deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas d'inflation non plus. On rappelle que l'inflation, c'est un outil pour faire baisser les dettes. Un outil mécanique Puisque si on a 200% d'inflation, bah, ça divise par deux la dette, hein, puisque l'argent vaut moins qu'avant. Il n'y a plus de politique d'inflation avec les politiques d'austérité, puis avec la mise en place de l'euro d'ailleurs. L'inflation qui avait des conséquences négatives aussi pour les populations, hein, ce n'est pas un truc magique qui était que positif, mais ça explique un peu l'état de la dette qui ne se réduit pas, c'est pas d'inflation et pas de croissance du PIB. Voilà. Donc, si on regarde dans ces dernières années, ils ont un budget génial. L'année dernière, hein, l'économie a dégagé un excédent de 2,8 points de PIB. Hein, la France a un déficit de 3 points de PIB. Or, l'état de la France est bien meilleur que l'état de l'Italie. Pourquoi ? Eh bien parce que ces politiques d'austérité ont limité le PIB, donc limité le développement des richesses, donc fait... s'implanter encore plus un chômage sur le long terme. Et aujourd'hui, l'Italie est dans un état bien pire qu'il ne l'était avant la crise de 2008. Il faut rappeler que la crise de 2008 a été une vraie grosse claque pour l'Italie, qui avait déjà mis en place les mesures d'austérité, qui a continué à les mettre en place, qui a un matelas social qui est beaucoup plus faible que la France et qui a donc vécu très très mal cette crise. Alors pas les dirigeants, pas l'état du budget, puisque cette politique d'austérité a limité le déficit, mais par contre la population, elle, a morflé beaucoup plus que la population française, grâce au non-respect des critères demandés notamment par Wolfgang Schäuble, le ministre allemand un peu intégriste, hein, des politiques d'austérité. Donc voilà. Alors ça explique quand même qu'à un moment la population en a marre, parce que c'est la population qui souffre, et elle rejette donc l'Europe qui est associée à ces politiques d'austérité. Or, c'est pas inévitable. Hein, on peut très bien avoir une Europe qui ne rentre pas dans les politiques d'austérité. C'est vraiment un choix qui a été fait, mais c'est pas un choix obligatoire. Hein, c'est un choix qu'il a fallu choisir. Voilà. Alors, c'est ça qui fait l'arrivée au pouvoir de ces deux formations qui s'entendent finalement pas si mal que ça. Hein, donc, on est bien dans du populisme et on est bien à droite et à l'extrême droite. Et on peut même qualifier aujourd'hui le parti 5 étoiles d'un parti d'extrême droite, puisque un parti d'extrême gauche ne s'allierait pas à un parti d'extrême droite s'il n'en partageait pas une partie des idées. Hein, donc c'est bien le cas aujourd'hui. On n'imagine pas la France insoumise s'allier au Rassemblement national de Marine Le Pen. Ben, en Italie, si. Ça voulait dire qu'effectivement, les comparaisons assez régulières entre la France insoumise et le mouvement 5 étoiles n'avaient pas tant de raisons d'être que ça, hein, d'ailleurs. Bon, alors, suite à ça, arrive au pouvoir, donc, ce gouvernement qu'on peut qualifier plus facilement d'extrême droite et de populiste. Et puis, arrive ce bateau qui s'appelle l'Aquarius, qui recueille, alors on rappelle, transporte actuellement 629 migrants qui ont été secouru au large des côtes libyennes. C'est un bateau qui est affrété par une ONG française pour empêcher les migrants de mourir dans la Méditerranée. C'est un truc humanitaire assez classique, on va dire, de sauver les gens. L'Italie, néo-fasciste maintenant, refuse d'accueillir des migrants sur son sol, de nouveaux migrants sur son sol. Monsieur Macron, président de la République française, voilà, le pays des droits de l'homme, tout ça, il va de sa leçon de morale en disant, je cite, que le gouvernement italien est irresponsable. Là, on se dit, bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit, quand on a un ministre de l'Intérieur qui pratique une politique nettement plus raciste et fasciste que l'Italie. Hein, parce que si on compare le nombre de migrants qui arrivent en France et le nombre de migrants qui arrivent en Italie, vous verrez qu'on a un facteur de proportionnalité d'au moins 1000. Hein. Donc, c'est finalement le plus hypocrite et celui qui applique la politique la plus raciste qui donne des leçons de morale à l'Italie, qui se met à appliquer des politiques, elles aussi, racistes et fascistes. Ça nous fait bien rire, si ce n'est que ça a énervé quand même l'Italie, à juste titre. Hein, on ne va pas défendre les fachos au pouvoir en Italie, mais on comprend qu'il l'ait mal pris. Du coup, voilà, une petite engueulade. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a a dit, je cite, « L'Italie ne peut pas accepter les leçons hypocrites de pays qui, en termes de migration, ont toujours préféré tourner le dos à leurs partenaires. » C'est bien vu, c'est bien dit, et c'est une réalité. Le ministre de l'Intérieur italien, le président de la Ligue, Matteo Salvini, lui, il a dit « Si les excuses officielles n'arrivent pas, on va faire la gueule, en gros. » Il n'a pas dit tout à fait ça, mais il a dit ça. Parce que, en fait, il y avait une rencontre prévue demain, mais qui, entre le Premier ministre, M. Conte, et les gouvernants français. Bon, c'est en train d'être négocié, Macron aurait appelé, on ne sait pas si c'est excusé ou pas, mais sûrement que oui, mais il ne le dira pas officiellement, parce que c'est un peu comme Trump et Macron et Kim Jong-il, je ne sais plus, Kim Jong-un, c'est des concours de testicules un peu, hein, on est bien dans du patriarcat, du masculinisme, enfin vous appelez ça comme vous voulez, c'est voilà, la quintessence du pouvoir, alors qui est détenu par des hommes, ce qui est encore voilà, plus flagrant dans ce testostérone mis en avant, qu'on n'assume pas ses erreurs de communication, on n'assume pas ses fautes, et Macron il est comme les autres finalement, hein, sur ce plan-là. Donc, on a des leçons de morale qui sont dites de part et d'autre, avec des chiffres qui sont rappelés, qui sont intéressants, en rappelant que la France aurait dû accueillir 7115 migrants. Vous savez, quand la Commission européenne avait demandé que les migrants qui arrivent, donc c'était en Grèce et en Italie, soient répartis dans tous les pays, avec un rapport de proportionnalité calculé, etc. La France avait dit oui, et en fait, sur ces 7115, vous imaginez 7115 sur 60 millions d'individus, c'est même pas une goutte d'eau, hein, c'est rien. Et bien, la France en a accueilli seulement 635. C'est pour dire quand même que Macron, Colomb, ils peuvent faire des leçons de morale à l'Italie. Ils sont largement pires que l'Italie. Donc, si on fait le compte, voilà, la France reste moins accueillante que l'Italie, donc pas de leçon de morale à donner à ces gens-là. Bon, alors demain ils vont peut-être se rencontrer ou pas, finalement on s'en fout, de toute façon, ils ont à peu près les mêmes idées. Le bateau, il en est où? Alors, il était en route pour aller en Espagne, puisque au port de Valence, si j'ai bien tout saisi. Il a été un peu détourné aujourd'hui, puisque la Méditerranée était pas tout à fait praticable, ils avaient peur. Alors, il accompagnait deux autres bateaux, parce qu'ils ont déchargé un petit peu hein, les migrants, parce qu'ils avaient peur hein, que le bateau coule. Donc là, ils se sont rapprochés de la Sardaigne, et pas loin de la Corse, ce qui est drôle d'ailleurs avec la Corse, hein, puisqu'on rappelle que les autorités corses ont offert d'accueillir...
Les élus
ont offert d'accueillir le bateau et les migrants qu'il y avait sur ce bateau. Quand on connaît la réputation de la Corse, ça fait plaisir que voilà, des fois, ils fassent la démarche dans ce sens-là. C'est plutôt pas mal. Bon, ça sera pas fait puisque c'est finalement l'Espagne qui devrait accueillir les migrants de ce bateau, l'Aquarius, et des deux autres bateaux italiens qui l'accompagnent. Et qui devrait arriver donc normalement d'ici demain et être pris en charge ensuite par l'Espagne. Bon, ça c'est l'actualité un peu loin de nous, à Bron. Alors Bron c'est beaucoup plus près, hein, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de bateau qui arrive. Par contre il y a 9 familles de migrants qui ont été expulsées ce matin manu militari par les milices de M. Colomb. Puisque ces familles étaient hébergées dans un local de l'entraide Pierre Valdo. Ils étaient là-bas depuis novembre, dans le cadre du plan Grand Foie. Maintenant, le plan Grand Foie est fini, on peut virer tout le monde. Donc, ils sont 28, il y a 16 enfants, et ils se retrouvent à la rue, et puis ils risquent une procédure de reconduite à la frontière pour se retrouver. Alors, s'ils sont rentrés officiellement dans un pays, c'est ce qu'on appelle des dublinés, ils vont se retrouver dans le pays par lequel ils sont rentrés au début. Une aberration d'un système complètement nul. Et sinon, ils seront conduits dans leur pays s'ils ont un pays qui peut les accueillir, parce que on rappelle qu'en général, ils viennent de pays où c'est pas toujours facile de retourner, parce que c'est en guerre, parce qu'on est pourchassé, etc. Et puis toujours en info locale, on va reparler de Moussal. On n'en avait pas parlé à l'antenne, parce que d'autres canyons info l'avaient fait.
On en avait parlé rapidement une fois.
Ça tombait pas dans un jeudi, la dernière info. Là, on va redonner quand même ce qui lui est arrivé, puisque il passait au tribunal. Donc on vous rappelle, hein, il a refusé de partir hein, le 4 mai dernier. Il avait un arrêté d'expulsion vers la Guinée puisque Moussa est bisexuel et c'est relativement mal vu, on va dire, en Guinée. Donc il a dit qu'il risquait, et on le croit d'ailleurs, hein, qu'il risquait sa vie s'il retournait avec son compagnon en Guinée. pays qui n'est pas très ouvert. Hein. Il faut quand même...
3 ans de prison hein, ouais. Pour homosexualité. Hein. C'est un pays carrément fermé, tu veux dire, sur oui. la question.
Bah, c'est pas le pire, mais, non, mais c'est bon. Pas le mieux. Oui.
Voilà. Même tu vas en prison parce que tu es homosexuel, il me semble que le pays prouve une certaine homophobie, quand même.
C'est, voilà. Voilà, c'est officiel même.
Même avec un mois, hein, même avec un jour. Voilà, voilà.
Même 15 secondes. Hein. Donc, la justice lyonnaise, a priori, n'a pas entendu tout ça. Elle en a un peu rien à faire. Et il a été condamné à 2 mois de prison et une interdiction du territoire français de 2 ans.
C'est ce qu'on appelle la double peine.
Eh bien oui, puisque ça existe toujours.
Eh oui, non seulement on vous expulse, mais en plus on vous punit et on vous réprime et on vous met en prison. C'est quand même un système pendant lequel on s'est longtemps battu hein, dans les collectifs pour l'aide, les soutiens et l'accompagnement sans papier à Lyon et partout en France. Et nous revoilà donc encore une fois avec un cas de double peine, ce qui est... enfin, là, la justice, elle est dans une bêtise et une répression qui est absolument scandaleuse et hallucinante.
Alors, comme il vient de faire 1 mois et demi de prison, il reste 15 jours, et puis après, il se fera virer manu militari, et il sera reconduit à la frontière. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont faire. Alors, il est soutenu par pas mal de gens, notamment par AIDS, l'association...
Bah, il est militant, hein,
voilà, AIDS. Donc, il demandait sa libération immédiate et sa régularisation. En réexpliquant un peu comment ça s'est passé, hein, Clove Pra, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a refusé sa demande parce qu'il ne les a pas convaincus, comme ils disent. Alors, il faut avoir un truc en tête, que ce n'est pas facile de démontrer qu'on est pourchassé pour son homosexualité. C'est plus facile quand on est un opposant politique, parce qu'il y a des textes officiels, des fois il y a des articles de journaux, il y a des choses qui montrent que dans le pays dans lequel on est au départ, on a des gens qui ne vous aiment pas, qui sont prêts à faire des choses contre vous. Quand on est homosexuel dans ces pays-là, on le cache. Donc forcément... personne ne le sait. Et quand on décide de partir parce qu'on pense qu'on craint pour sa vie, eh ben on part sans réelle preuve. Et c'est ça le problème, là. Alors oui, il y a des risques pour les homosexuels en Guinée, mais il ne peut pas le démontrer. Et l'OFPRA n'est pas sensible à ce problème-là. Et donc, ils ont refusé sa demande d'asile en France. Il y a eu pas mal de mobilisations, des manifestations devant les tribunaux, enfin, notamment à Lyon, et pas qu'à Lyon, hein, il y a eu des rassemblements dans toute la France. C'est un peu symbolique, c'est un peu plus facile pour et symbolique de défendre Moussa parce que c'est flagrant le problème qui lui arrive.
Mais c'est aussi parce que c'est un militant et que de fait son organisation se mobilise aussi fortement parce que c'est
il y a
une affinité, une proximité très proche aussi.
Il y a moins de gens qui ont du courage aussi, il faut le dire, de défendre des migrants pour des raisons économiques, pour des choses comme ça, alors que c'est toujours valable hein, les gens ont le droit de se déplacer où ils veulent, alors que là il y a un vrai voilà, il risque vraiment sa vie s'il rentre chez lui, etc. Enfin, s'il est dans le pays d'où il est issu. Donc, voilà, les recours. Alors, vous allez me dire, parce que, est-ce qu'il y a encore un espoir ? Il est faible. Alors d'abord, il y a eu une campagne d'envoi de cartes postales adressées à l'Élysée, donc à Macron et compagnie. Ils n'ont jamais répondu, ils n'en ont jamais parlé, et à mon avis, ils sont totalement insensibles au sort d'une personne comme ça. Mais il y a quand même un micro-espoir. Enfin, il faut toujours garder espoir. Hein. Et puis, il y a son avocate qui a fait appel de la décision pour un vice de procédure, parce qu'il ne parle pas très bien français, Moussa, et il n'y avait pas de traducteur ou de traductrice. Du coup, il ne comprend pas toujours tout ce qui lui est reproché ou les décisions de justice. Et elle estime que voilà, le procès n'était pas... s'est pas déroulé dans les règles de l'art. Donc, elle a fait elle a fait appel de la décision pour vice de procédure.
Ouais, bah, enfin, on peut quand même noter que la procureure a décidé que, ouais, en fait, il n'était peut-être pas vraiment homosexuel. Hein, et puis qu'en plus, quand même, au niveau de la justice, a décidé aussi que, oh non, mais il parlait assez le français. Donc ça, c'est quand même aussi de la bonne justice qui est bien menée, puisque de toute façon, il semble-t-il qu'on avait décidé pour lui avant même que le tribunal correctionnel n'ouvre la porte, hein, puisque tout semblait être décidé. Mais c'est un peu le problème des procureurs, d'une manière générale.
Mais c'est intéressant de voir la bêtise, quand même, du coup, de la justice et de l'État, hein, puisque la justice est vraiment le bras armé des politiques racistes de l'État. C'est qu'un cas comme ça, ça leur coûte rien de le régulariser. C'est un individu au milieu de d'autres, ça se voit pas, il est soutenu par des militants, il risque a priori sa vie, ça a été expliqué plein de fois, ça leur coûte rien de le régulariser et ça évite de parler de la politique raciste. Sauf que en fait, ils sont bien contents qu'on parle de la politique raciste, donc c'est un vrai choix assumé de politique anti-migratoire qui est mise en œuvre par Gérard Collomb et par Emmanuel Macron, puisque c'est lui le chef quand même.
Mais du coup, on parle quand même à une France raciste et homophobe, hein, ça va bien ensemble, voilà. C'est facile, et puis comme ça, il y a des tas de gens qui soutiennent cet emprisonnement et cette expulsion.
Alors, sur les réfugiés, je vais terminer par un truc sympa, parce que s'il n'y en a pas tant que ça, c'est le Refugee Food Festival. Donc c'est quelques restaurants, ils ne sont pas très nombreux, il y en a 7, qui décident de mettre à l'honneur des chefs réfugiés, et qui vont pendant quelques jours, enfin tout le week-end on va dire, de hier jusqu'à dimanche, et ben préparer des repas avec des influences venues de leurs différents pays. Donc on parle de chefs malaisiens, syriens ou afghans. Donc voilà, il y a quelques petits restaurants et un gros qui fait ça. Et moi je trouve l'initiative sympathique. Il y a aussi un food truck qui a été fait par des Syriens qu'on peut voir de temps en temps dans certains festivals. Ben voilà, c'est une chose un peu positive. Au lieu de parler toujours des réfugiés sous la forme de problèmes, il faut les intégrer, tout ça. Et ben ça leur permet aussi de découvrir ce qu'ils sont et leur culture, et la nourriture, ça fait aussi partie de la culture, et ils peuvent apporter énormément de choses, hein. On le sait très bien, la France mange du couscous et des pizzas jusqu'à preuve du contraire, c'est bienvenu par des gens qui étaient à la place des Syriens, des Malaisiens ou des Afghans aujourd'hui. Voilà, c'est encore à moi ? Ah, je continue. Alors, t'aurais pu faire... Non, fais ton truc, allez, sur Kim et sur Trump. Là.
Bon, de toute façon, ce sera encore à toi après, hein, t'inquiète pas. Allez, on va être rapide. C'était pour revenir donc sur cette rencontre qui a donc été annoncée comme historique, mais qui l'est. Il faut bien se rendre compte quand même que les États-Unis d'Amérique ont rencontré la Corée du Nord, et tout ça pas sur un terrain de football. Je vais faire des pics un peu tout le long, hein, désolé, excusez-moi. Mais bien dans une salle qui a demandé beaucoup d'organisation. C'est d'abord ce qu'il a fallu suivre, hein, trouver un endroit avec un hôtel assez grand dans lequel les deux ne seraient pas logés, mais qui aurait bien deux portes dans la salle pour que chacun puisse arriver de son côté. En même temps, enfin bon, la diplomatie est un truc extrêmement compliqué. La question aussi est de savoir, parce que ça on n'a toujours pas la réponse, savoir qui va payer la note pour la Corée du Nord.
Ouais, parce qu'ils veulent pas payer. Et,
souvent c'est le Sud.
Les États-Unis sont proposés, mais
ça faisait mauvais genre.
Voilà, ça faisait mauvais genre. Du coup, il y a des chances effectivement que ce soit la Corée du Sud qui paye.
Ou Singapour, hein, qui a peut-être aussi un peu sur l'affaire, qui a déjà beaucoup avancé. On va être très clair dès le départ. Le grand gagnant de cette affaire, c'est Monsieur Kim, qui a pu rentrer dans son pays en disant regardez, j'ai serré la main de l'Américain. L'autre là-bas, le chevelu blond bizarre, celui avec qui on s'est insulté par communiqué respectif, c'est lui qui est venu à moi. Et puis Monsieur Trump joue lui de son côté un drôle de jeu. Il faut quand même se rendre compte qu'il vient de signer un accord avec la Corée du Nord, alors que il n'y a pas si longtemps, il a dénoncé l'accord avec l'Iran, qui portait sur la même chose, le nucléaire.
Oui, alors après, on ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord, hein, puisque là, pour l'instant...
Dans cet accord qui a été signé le 12 juin à Singapour, c'est un truc assez court, il faut bien le dire, et on sait ce qu'il y a dedans, puisque on le sait. En fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a l'idée d'abord qu'il y a une garantie pour la sécurité du Nord, que les États-Unis ne vont pas les foutre le feu à la Corée du Nord, ce n'est pas écrit comme ça, vous vous doutez bien. Il y a l'idée aussi qu'il va y avoir des relations bilatérales qui vont être suivies entre les deux parties. Et puis, il y a une idée qu'il va y avoir une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Attention, ce n'est pas écrit que...
C'est la Corée du Nord qui est dénucléarisée, c'est toute la péninsule.
C'est la péninsule, ce qui n'est pas pareil que de dire que c'est la Corée du Nord qui va enlever son armement militaire nucléaire. C'est pas ça qui est dit.
Mais la Corée du Sud n'a pas de bombe atomique.
Alors, non, mais ce n'est pas écrit comme ça. Ça va plus loin. Alors, l'idée, c'est comme pourquoi M. Trump est aussi sur cette affaire, c'est que ce qu'on pourrait analyser, c'est que face à l'Iran, il n'était pas tout seul, M. Trump. Il y avait l'Union Européenne et d'autres pays qui étaient là pour maintenir cet accord. Et puis c'était un accord qui avait été quand même mis en place par Monsieur Obama, c'est-à-dire pas par lui, mais par quelqu'un d'autre, en plus par un démocrate dont il a, pour lequel il a peu d'affection. Il faut bien le dire. Donc, on sent que Monsieur Trump a envie de laisser une marque dans l'histoire. C'est un peu un problème de tous ces machos qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est qu'ils ont envie d'écrire un truc dans les livres d'histoire avec leur nom dessus. Donc, il a été faire ça. On a bien cru, hein, je vous rappelle que ça n'allait pas se faire. Finalement, ça se fait, mais c'est quand même Monsieur Kim qui gagne, parce que dans cet accord, il n'y a aucun engagement sérieux. On n'a pas de calendrier, on n'a pas de processus, et ça n'engage pas directement la Corée du Nord. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'il y a eu une conférence de presse, et là, M. Trump a pris un petit peu tout le monde de court en annonçant une chose assez simple, c'est qu'il allait cesser les manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud. Et alors ça, c'est un gros problème qui a laissé a priori la Corée du Sud et le Japon, c'est-à-dire M. Moon et M. Abe, un peu la bouche ouverte avec, voyez, le bas de la mâchoire qui pendouille. Limite, il y a eu de la bave qui a coulé, parce que là, ils se sont dit, eh mince, c'est pas comme ça qu'on avait prévu les choses, parce qu'apparemment, M. Trump n'avait pas demandé l'avis à ses partenaires en Asie pour savoir s'il allait arrêter d'envoyer ses bateaux et ses avions. Je vous rappelle qu'il y a des bases très importantes en Corée du Sud, hein, de l'armée des États-Unis d'Amérique, et que c'était un peu ce qui était censé faire. Vous savez, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait une armée qui, comme ça empêche les autres d'utiliser la leur.
Un équilibre, quoi.
Voilà.
Alors,
j'ai même réentendu, hein, il n'y a pas très longtemps, que le fait qu'il y ait la Corée du Nord puisse avoir la bombe, c'était bien parce qu'il y avait des effets dissuasifs. On entend encore des discours comme ça. Il faut mieux avoir les armements lourds parce que c'est dissuasif. Qu'on puisse encore avoir aujourd'hui ces discours, c'est quand même assez incroyable de la part de gens qui font de la géopolitique. Mais bon, ça a été, je l'ai entendu sur plusieurs chaînes et dans plusieurs médias. A priori, ça n'avait pas empêché, hein, Monsieur Trump de penser qu'il pouvait quand même agresser la Corée du Nord il y a encore quelques mois par communiqué. Donc là, on a quand même une surprise, c'est que Monsieur Trump annonce qu'il va, qu'il pourrait quoi, se retirer de la Corée du Sud. Alors, il l'a pas dit comme ça, il a dit qu'il allait arrêter les manœuvres. Mais du coup, ça inquiète tout le monde. De l'autre côté, il faut bien le dire, hein, la Corée du Sud et le Japon, c'est pas ce que, a priori, les deux pays avaient espéré. Et d'ailleurs, du côté de Séoul, on a bien dit qu'ils étaient pas au courant. Et ce qu'on en sait, c'est que, a priori, même du côté du Monsieur Trump, ça n'avait pas forcément été prévu. Il s'est peut-être un petit peu emballé sur une conférence de presse qui était beaucoup plus longue que cette très courte déclaration commune. Ce qu'on se demande maintenant, c'est est-ce que ce sommet a servi à quelque chose ? Point d'interrogation, trois petits points, nous ne savons pas, c'est pas sûr. Déjà parce que, comme je vous le disais, la déclaration, elle amène rien de sérieux pour la Corée du Nord et n'engage à rien Monsieur Kim et ses petits copains. Donc, il peut faire durer longtemps, hein, l'application de cette déclaration commune. Il a juste mis une signature en bas, il y a juste eu des mains qui se sont serrées. Même Mike Pompeo, qui est, j'ai perdu ce qu'il est du côté de Monsieur Trump.
L'équivalent du ministre des Affaires étrangères.
Ouais, c'est ça, j'arrive jamais à trouver.
Ancien du FBI, je crois.
Ouais, voilà. Donc là, il est à Pékin, en Chine. Il a dit que c'était pas sûr que ça tienne, cette affaire. Même lui semblait un petit peu sceptique. Quelle est la fiabilité de cet engagement? Quelle est la fiabilité des promesses de Monsieur Kim? Quelle est la fiabilité de l'engagement à long terme de Monsieur Trump, hein? On voit qu'il lui a fallu à peine un tweet pour rageur contre ses amis du G7 pour dire zut, zut et re-zut. Donc, personne n'en sait rien en fait. Il va falloir attendre certainement plusieurs mois avant de voir un état. En tout cas, le grand gagnant, je le répète, c'est quand même Kim Jong-un. C'est lui qui rentre chez lui vainqueur. C'est lui qui peut, entre machos, avoir un grand sourire et dire... C'est quand même moi qui ai un peu fait plier l'Amérique.
Alors on va revenir en France et aller du côté du grand salon de la défense, de l'armement, de la sécurité qui s'appelle Eurosatory, qui a lieu chaque année à cette époque à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Donc... Ça tombe bien, c'est un salon qui marche très bien. La géopolitique, comme vient de le montrer ce dont tu as parlé, c'est toujours un peu troublé, un peu compliqué. Il y a de la menace terroriste, il y a des répressions contre des mouvements populaires de partout. Bref, les dépenses militaires mondiales augmentent. Et pour ça, il faut vendre du matos. Et le but de ce salon, c'est de vendre, comme tous les salons d'ailleurs, du matériel. Donc il y a 1750 exposants, ça vient de 63 pays, qui viennent présenter leurs armes, leurs joujoux technologiques pour tuer, contrôler, emprisonner, arrêter, surveiller, enfin tout ce que vous voulez. 50 000 visiteurs sont attendus. Bon, vous imaginez, c'est un peu le supermarché de la guerre, hein, et des armes. Alors, si vous avez jamais vu de reportage, ça vaut le coup d'en voir un en vrai, parce que c'est pas un salon tout à fait comme les autres. Il y a une partie des visiteurs, c'est des gens costard-cravate qui viennent de pays peu ou pas recommandables et qui viennent faire leur supermarché et leurs courses, quoi. Voilà. C'est un peu spécial comme ambiance. Hein. On a vu, par exemple, dans un reportage, une délégation d'Arabie Saoudite qui est en train de discuter d'un drone vendu par Airbus. C'est sympa, hein, tout ça. On se dit, ils vont pouvoir réprimer leur population. L'Arabie Saoudite, un régime totalitaire, un des plus totalitaires de la planète, quand même. Hein. Bon. Alors, je vais donner quelques chiffres. 2017, les dépenses militaires se sont élevées à 1,74 milliard de dollars, donc en hausse de 1,1% sur un an. C'est plutôt pas mal. Les pays qui dépensent le plus pour leur défense, bah, c'est toujours les mêmes. Le premier, les États-Unis d'Amérique. Le deuxième, mais très loin derrière, c'est la Chine. Et ensuite, l'Arabie Saoudite. Ah bah oui, on en parlait, c'est pour ça qu'ils sont là, regardez les petits trucs que font Airbus et les autres. La France, c'est sixième consommatrice d'armement en termes de budget. J'ai énoncé 1,7 milliard tout à l'heure, c'est pas ça, c'est 1740 milliards. Oui, puisque la France, à elle seule, c'est 57,8 milliards de dollars. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. On pourrait en faire des choses dans le social et dans l'éducation si... Non, il faut pas arrêter de rêver. Bon, bref, la France est le sixième consommateur d'armes dans le monde et aussi le troisième exportateur, d'où l'intérêt de ce salon en banlieue parisienne. Hein, les ventes ont explosé l'année dernière, plus 20%, 5,21 milliards de ventes d'armes à l'étranger, c'est le bonheur, Macron est heureux. Les plus gros vendeurs restant bien évidemment loin devant les États-Unis et la Russie. Voilà. On notera d'ailleurs l'arrivée de petits pays totalitaires qui viennent vendre des armes. Hein, on a vu un stand du ministère de l'Industrie et de la Défense de l'Azerbaïdjan. Hein, c'est tout sauf un truc sympa, l'Azerbaïdjan. On a vu la Turquie aussi. Hein, avoir des stands et vendre... Maintenant, ils sont très bons en trucs totalitaires et répressifs. Hein. Du coup, ils ont aussi une industrie qui se développe et ils viennent vendre un petit peu leur matériel. Alors, est-ce que ça fait bouger? Alors, pas plus beaucoup, mais il y a eu un semblant de réaction cette année, un peu plus que les autres, en tout cas un tout petit peu plus médiatisé, puisqu'une trentaine de collectifs, associations, syndicats, organisations politiques se sont mobilisés pour faire un rassemblement hier à 14h devant l'entrée du salon. Bon, ils n'étaient pas nombreux du tout, ça faut quand même le dire. Alors au départ, hein, c'est des militantes féministes qui sont à l'origine de l'organisation de la manifestation devant Eurosatory cette année. L'idée de ces militantes, hein, c'est une opposition générale à la guerre qui est faite certes par des hommes, c'est pour ça aussi peut-être que c'est des féministes qui l'ont lancée, mais c'est une idée qui est qui concerne tout le monde, bien évidemment. C'est pourquoi ça mobilise peu? Et bien parce que dans beaucoup de pays, la question des ventes d'armes, et notamment en France, ou celle des interventions militaires, c'est un truc qui est caché, on n'en parle pas, ça ne fait pas l'objet d'un débat. La France fait la guerre au Sahel, la France fait, participe à des trucs un peu partout. Hop, très peu de débats publics, très peu de débats à l'Assemblée. Du coup, c'est vraiment un truc caché, c'est un peu comme le nucléaire. Hein. Mais ça a toujours été le cas, vous allez me dire, de l'armée. Donc aujourd'hui, les mouvements antimilitaristes, les mouvements pour la paix, sont vraiment faibles. Hein, et surtout depuis la disparition, depuis la chute du mur de Berlin, on va dire. Donc ça n'empêche pas qu'il y a, il semble, un petit renouveau de la lutte, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc même si la mobilisation était faible, on est relativement content de ce qui se passe. Et dans les choses qu'on peut dire sur ce salon, pour terminer là-dessus, y a les évolutions modernes qui commencent à apparaître et qui se généralisent dans ce genre de salon. C'est les trucs qu'on peut voir comme une raie en titane et en aluminium dotée de caméras et bourrée d'explosifs qui a été développée par la Turquie, donc qui imite la raie, le poisson, et qui va dans la mer. Il y a le drone chauve-souris qui est proposé par une entreprise nord-américaine. Il y a des des essaims de nanodrones qui sont pas plus grands que des insectes et qui sont capables de fonctionner en groupe et aussi de façon autonome, qui sont eux aussi issus de l'industrie des États-Unis d'Amérique. Il y a des petits robots qui sont comme des bancs de poissons qui sont lâchés dans la mer pour espionner. Et puis il y a des choses un peu plus grosses comme ce chien robot, comme plein d'exemples de développement de l'intelligence artificielle au sein de l'armement, avec les premiers robots tueurs, puisque Samsung a mis en œuvre sur la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord un robot qui s'appelle le SGR-A1, qui est capable de détecter des cibles et de tirer automatiquement. Et là, on a basculé du côté des armes robotisées, automatiques, sans intervention humaine. Et Samsung, c'est le premier à avoir fait ça.
Oui, mais c'est le discours qu'on entend ces derniers temps de la part des constructeurs et des politiques, c'est de dire regardez, on va rendre la guerre plus saine quelque part, puisqu'il y aura plus d'êtres humains sur le terrain qui vont s'affronter comme pendant les guerres napoléoniennes, sauf que ben le robot tueur, il est bien là pour tuer quelqu'un.
Les êtres humains, hein, oui,
quand même, il faut bien le dire, il est pas là juste pour juste pour détruire des usines de chimiques par exemple, parce que ça aussi c'est des exemples qu'on nous donne. Et puis il faut pas oublier que pour l'instant, par exemple, il y a encore l'être humain qui est là quand il faut conduire le drone, parce que le drone peut réfléchir partout lui-même grâce à ses algorithmes quand il est en l'air pour tirer sur un truc qui bouge. Mais on sait aussi que les êtres humains, hommes et femmes, qui sont dans les fauteuils derrière la caméra sont marqués quand même parce qu'ils tuent des gens à distance et que ça a l'air tout aussi traumatisant malgré tout.
Oui, parce qu'actuellement, à part le robot de Samsung, tout le reste est semi-automatique. Voilà. On rappelle qu'il y a 3 ans, une centaine d'experts scientifiques du monde entier, d'industriels. Il y avait même Elon Musk, hein, le patron de Tesla. Il y avait Stephen Hawking, le grand scientifique qui est décédé depuis. Pas mal de gens qui avaient appelé, qui avaient fait une lettre ouverte aux Nations Unies en disant il faut absolument faire une loi, une règle qui interdit les robots tueurs, qui interdit que les prises de décision pour tuer les personnes soient prises par... ne soient pas prises par des êtres humains. Ça avait été un petit peu médiatisé et il y a pas mal de pays, hein, je crois qu'ils sont 26 au niveau de l'ONU qui étaient pour. Bon, 26 sur plus de 100 pays, c'est pas non plus beaucoup. Et puis il y a des pays qui bloquent, hein, comme les États-Unis d'Amérique, bien évidemment. Voilà. La France, elle, avait une politique ambiguë comme d'habitude. C'est la politique de Macron, c'est de dire non, il faut pas un traité contraignant, il faut une déclaration politique. On sait ce que ça fait, les déclarations, personne ne respecte rien, si ce n'est pas contraignant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. La robotisation se développe, ça se découvre dans ce salon Eurosatories, où il n'y a jamais eu autant de robots d'intelligence artificielle, même s'il n'y a rien d'intelligent dans tout ça, ce sont des algorithmes. Mais des algorithmes qui sont capables de prendre des décisions en fonction de la situation, mais qui sont mal capables d'analyser une situation qui n'avait pas été prévue. Un enfant qui sort quelque part, enfin voilà, y a un risque énorme du développement de ces armes dites intelligentes. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de guerre. Je te laisse parler un petit peu de Linux, là, ça nous détendra.
Oui, alors on va faire vite, parce qu'il ne nous reste quand même pas tant de temps que ça. De Linux, oui, j'aurais préféré parler d'autre chose.
Ah bah mais vas-y, enchaîne, fais tout ce que tu veux.
Je fais comme je veux ?
Oui, je garde ma dernière info pour la fin, s'il y a du temps.
Alors, non, mais on va tout faire, mais l'idée c'est que, du coup, on déconstruit un petit peu la logique déroulé, mais c'est pas grave. Alors je vais vous parler de la grande récré, ça sera l'info écho de notre soirée. La grande récré, je vais y arriver, excusez-moi, vous savez que c'est donc une enseigne de distribution de jouets, ça représente 9% du marché de la distribution de jouets en France, c'est la famille Grandberg qui est à la manœuvre, qui détient 62% de la chose, et donc depuis le 13 mars dernier, la grande récré est placé en redressement judiciaire et on a appris hier que le 11 juin dernier, la Grande Récré a déposé auprès du tribunal de commerce de Paris un plan de continuation de l'activité. L'idée du plan de continuation de l'activité, c'est de pouvoir gérer au mieux vos problèmes avec vos créanciers, de gérer vos emplois avec un PSE, toutes ces choses-là. Donc ça officialise un petit peu vos difficultés, si vous voulez. Je fais très très simple. Hein. Alors l'idée, c'est évidemment de se recentrer pour devenir rentable. Alors d'ici fin juillet, on va voir si le tribunal valide le plan qui est donc proposé par la Grande Récré. L'idée, c'est que l'entreprise prévoit de fermer ou de vendre des filiales déficitaires en Belgique, en Espagne, en Suisse, pour ne garder que les magasins en France, mais pas tous les magasins en France, puisque certains sont considérés comme non rentables sur ces magasins. Alors ça ne concernera pas les magasins qui sont en franchise de la Grande Récré en France, il y en a à peu près une centaine. Il y a 62 magasins sur les 166 qui sont concernés par une possible fermeture ou une vente, hein, si la Grande Récré arrive à refourguer globalement ces magasins, parce que l'idée est un peu là quand même. Et puis les sites qu'on trouve sur internet, avenue des Jeux, rue des Maquettes, rue des Pulses, ont été mis en vente, et il faut savoir que la Grande Récré avait acquis ces sites il n'y a pas très longtemps, c'était en 2013, donc la vente est rapide. Et puis ensuite on va trouver aussi des marques comme Rue de la Fête, là on est sur déguisement et loisirs et créations, qui vont être interrompues, et ça va être juste la partie des produits pour les enfants qui vont être intégrés au catalogue de la Grande Récré. Donc c'est quand même un peu du grand nettoyage, hein, du côté de la Grande Récré. Ça va toucher à peu près 300 personnes. Il y a déjà un plan de sauvegarde de l'emploi qui est en cours. Alors, la problématique de la Grande Récré, c'est qu'il y a une dette financière qui est assez importante. On parle d'une dette de 91 millions d'euros qui devrait être remboursée grâce à ce plan de continuation sur 9 ans. C'est ce que souhaite cette enseigne. Il faut dire qu'il y a un chiffre d'affaires qui ne marche pas très bien. En 2017, on parle d'un chiffre d'affaires de 460 millions. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais en fait, ça ne permet pas au groupe, a priori, de s'en sortir, parce qu'en 2016, on était à 500 millions d'euros. Donc, vous voyez, il y a une petite baisse, hein, quand même. Et puis, il faut savoir qu'a priori, les banques ont refusé de renouveler des crédits. Donc, il y a une difficulté pour l'enseigne de payer sa dette. Alors, l'idée, là, c'est de générer des sous, hein, ce qu'on appelle de la trésorerie, pour que sur ces 9 ans, ben, la Grande Récré arrive à rembourser ses 91 millions. C'est-à-dire l'idée, c'est de générer 165 millions de trésorerie, et puis il y a déjà 25 millions que possède l'entreprise. Vous allez me dire, mais Delphine, c'est plus que les 91 millions. Oui, mais la grande difficulté de la Grande Récré, c'est qu'elle a une dette auprès des fournisseurs pour 60 millions d'euros. Et quand vous avez une dette auprès des fournisseurs, vous avez des fournisseurs qui ne vous font plus confiance
et qui
ne veulent plus vous livrer.
Bah oui, du coup, c'est...
Donc l'idée, c'est d'arriver à payer d'abord un petit peu maintenant, et puis ensuite sur 9 ans. Vous voyez, pareil, hein, l'idée elle est là aussi. Donc là, il y a des magasins, il y a déjà des fournisseurs qui ne livraient plus au magasin. Alors l'enseigne avait mis en place un système qui perdure actuellement de dépôt-vente de la marchandise. Ouais, un peu comme
ils
une plateforme.
Là, ouais.
Ils en étaient là, ils en sont là. L'idée maintenant pour la Grande Récré, c'est de se remettre sur le marché internet, puisque c'est là où beaucoup de jouets sont vendus. Je vous rappelle qu'il y a une autre enseigne qui a subi des coups, c'est Toys R Us. Hein, ça vous parle, vous avez
qui
entendu.
Qui a fermé des magasins.
Qui a fermé ses magasins. Là, donc, c'est au tour de la Grande Récré qui espère réorganiser sa vente sur internet et de développer cette vente sur internet. Hein, pour l'instant, c'est 3,5% du chiffre d'affaires. L'enseigne espère passer à 15% de ses ventes en ligne sur 5 ans. On souhaite bien du courage, encore une fois, à ceux et celles qui travaillent pour la Grande Récré, parce que on sait que c'est jamais facile, d'autant plus quand les magasins y ferment.
Parle-nous du tabac un peu.
Du tabac. Alors, vous avez, c'est à la fois une info éco et pollution. Donc,
tu veux parler des filtres, tu veux dire ?
Ouais, c'est ça. Alors, la secrétaire d'État, Madame Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, a reçu aujourd'hui les industriels du tabac, les cigarettiers, les fabricants de tabac. Alors, il y a ces derniers, hein, comme on dit, ont 3 mois pour amener des solutions au problème du mégot. Parce que le ministère de la transition écologique fait donc état de 30 milliards de mégots jetés en France chaque année, un peu de partout, dont sur le trottoir et sur la route. 40% de ces mégots, précisément, seraient jetés dans la nature. On en trouve de partout, hein, c'est ce que nous explique le ministère.
Du coup, c'est pas biodégradable.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, on dit qu'il faut 2 ans, j'ai cherché, pour que le filtre disparaisse. Hein, parfois jusqu'à 10 ans.
Voilà, c'est pas terrible, quoi.
Et le problème, c'est qu'on retrouve cette cochonnerie dans les eaux de ruissellement. Donc on va les retrouver quand c'est par exemple dans la campagne. Ça pollue tout, on les retrouve donc dans les cours d'eau, dans les sols. Voilà, donc un mégot pollue beaucoup. Alors l'idée de Madame Poirson, c'est de faire un petit projet avec les cigarettiers.
Et de leur faire payer.
Alors, vous allez me dire, ouais, alors déjà le premier pollueur et la première pollueuse, c'est ceux et celles qui fument et qui jettent leur mégot n'importe où.
Oui, parce qu'après, d'abord, si j'étais à la poubelle et que c'est brûlé, bon, c'est brûlé, quoi.
On est bien d'accord. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite la position de ce lobby, qui est quand même très, très vieux est très très fort. Exactement, tu as raison. On a tout de suite eu une réponse de British American Tobacco qui expliquait qu'il ne voulait pas du tout participer à la sauvegarde de la nature. Parce que Mme Poisson, elle leur dit soit ils trouvent des solutions, les cigarettiers, pendant les 3 mois, c'est-à-dire que le prochain rendez-vous est en septembre à la rentrée, soit alors le gouvernement va mettre une taxe pour responsabiliser les producteurs, les fabricants de tabac. Alors tout de suite, British American Tobacco a dit « Mais nous, on ne payera pas. Déjà, on n'est pas d'accord. » Alors déjà, les 3 mois de réflexion, je pense qu'ils vont partir à la plage.
Hein. Ils n'auront pas le choix. Hein.
Le principe du pollueur-payeur, ils n'en veulent pas bien. Ils estiment que c'est aux consommateurs d'être chéviques.
Oui.
C'est marrant cette position des industriels quand même. Mais effectivement, on peut aussi analyser que du côté du ministère, on tape un tout va. Alors on a eu la fin des cotons-tiges qui polluent, la fin des mégots qui polluent, mais c'est un petit bout à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au vrai fond du problème, par exemple, qui est dans les supermarchés, le suremballage ou l'emballage tout court.
Non, mais on ne s'attaque surtout pas aux choses importantes qui nécessiteraient de taper le poing sur la table face à des industriels. Là, on y va doucement. Le tabac, de toute façon, ça n'a pas la cote. La majorité de la population est contre. Du coup, ils savent très bien qu'ils peuvent énerver ces industries-là. Leur lobbying, il a été puissant avant, il ne l'est plus aujourd'hui. Et voilà, c'est très très facile.
Au niveau des collectivités territoriales, il y a aussi des plaintes parce que ça coûte très cher de nettoyer les trottoirs, de ramasser tout ça, de faire brûler, enfin d'entasser nos poubelles. Donc, comme tu le dis, ça a bonne conscience, ça va aller dans le bon sens, comme les cotons-tiges finalement, ou comme les pailles en plastique que McDonald's va arrêter. C'est exactement la même idée. C'est petite chose par petite chose. Par contre, finalement, il n'y a pas d'investissement à long terme contre les industriels pour déjà, dès le départ, au niveau de la production, arrêter de nous proposer des produits qui polluent. Alors, vous allez me dire, si vous êtes fumeur ou fumeuse, ça vous embête, je suis bien d'accord. Mais enfin, du côté du ministère, sinon, on a des grandes, grandes idées, puisque c'était la semaine dernière, il y a eu le lancement d'un appel à projet pour labelliser des start-up green tech, je cite. Start-up, green tech. Déjà, in English, it's better. Nous l'avons dit il n'y a pas très longtemps. Donc là, il va y avoir, c'est une seconde édition. C'est toujours sous le patronage de Madame Brune Poisson, secrétaire d'État, qui donc va lancer cet appel avec des labellisations. Et alors là, on sent que d'un seul coup, l'écologie va beaucoup y gagner à voir labelliser des start-up green tech, parce que là, je pense que la nature va
gagner.
Va gagner. Ouais. Je te laisse nous parler un petit peu encore d'Israël-Palestine.
Je veux ton argument sur Linux. Je
veux bien terminer avec ma chronique conso à la fin, s'il te plaît. Allez, on y va.
Bon, alors on va parler d'Israël-Palestine avec 3 petites infos. La première, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté un projet de résolution condamnant Israël pour les violences meurtrières qui ont eu lieu il y a quelques semaines dans la bande de Gaza. Donc ça a eu lieu hier. Ce projet de résolution qui était porté par la Turquie et puis d'autres pays arabes a été donc voté à 120 voix pour sur 193. 8 votes ont été contre et 45 abstentions. La France a voté pour ce texte. Comme c'est l'Assemblée générale de l'ONU, il n'y a pas de droit de veto, tout le monde vote, mais par contre c'est pas contraignant, donc ça sert à rien, c'est juste une condamnation symbolique. Alors c'est mieux que rien, une condamnation symbolique. Il faut savoir que c'est le Conseil de sécurité qui est le vrai organe de prise de décision, mais là il y a 6 pays qui ont des droits de veto, notamment les États-Unis d'Amérique, qui bloquent les résolutions parce qu'il y avait une tentative aussi. Donc on fait passer ça à l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui ne servira donc à rien. Ça engage quand même, en tout cas ça pousse le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à préparer des propositions en vue d'un mécanisme de protection internationale. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est. Dans l'idée, ça pourrait être une mise en la mise en place d'une mission d'observation, et au mieux, ce qui serait pas mal, une force militaire de maintien de la paix. Parce que là, Israël, il serait coincé, il y aurait ça en Cisjordanie et à Gaza, et puis on rappelle qu'officiellement les frontières c'est 1967, hein. Du coup, mais ça l'ONU a jamais eu le courage de le faire, parce qu'il faut passer par le Conseil de sécurité et que les États-Unis bloquent, mais ce serait l'idéal aujourd'hui dans quand des gens se parlent pas, on envoie comme ça des casques bleus du coup, et ça obligerait, ça ferait un énorme recul pour Israël. Bon voilà, on en est là. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Il y a des chances que ça aboutisse pas à grand chose. Et puis il y a le retour du tramway de la discorde. Il y a quelques années, il y avait eu ce fameux tramway construit par Alstom qui passe dans Jérusalem et qui allait dans un tout petit bout de Jérusalem-Est, notamment sur le terminus en fait, et qui était accusé d'être un tramway de la colonisation. Ce qui était ce qui se défendait, même si c'est pas flagrant à l'époque l'aspect colonial. Par contre, il y a un nouveau projet, et là par contre il est beaucoup plus important, puisqu'il y a plusieurs lignes et la prolongation de cette ligne là, et ça va tout dans les le but c'est de desservir les colonies qui sont implantées dans Jérusalem-Est, donc Jérusalem-Est, on rappelle, c'est la partie palestinienne de Jérusalem. Et donc là, il y a un vrai problème, c'est un vrai outil de colonisation. Ça ne sert pas à desservir les Palestiniens ou les Arabes israéliens, mais ça sert à desservir les colons israéliens. Il y a 3 entreprises françaises qui sont dedans, dont 2 qui dépendent de groupes publics, que sont la SNCF, la RATP et la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire l'État français. Donc là, ces entreprises qui travaillent là-bas, elles ont l'accord de Macron, quelque part. Puisque c'est l'État français qui décide, qui a un pouvoir sur ces entreprises. Donc c'est un peu la honte que l'État participe finalement au développement de la colonisation. Et il y a une entreprise privée qui s'appelle Alstom, puisque c'est elle qui avait construit le premier tramway et qui continue là-bas. Donc voilà, il y a une petite mobilisation pour essayer de faire réagir Macron et ses amis, pour qu'ils arrêtent de soutenir tout ça et que ces entreprises françaises se retirent du marché. Mais comme elles le disent, si c'est pas nous, ça en serait d'autres. Ouais, mais enfin, on n'est pas obligé d'avoir du sens sur les mains non plus. Et puis pour terminer dans ces infos israélo-palestiniennes, le pire du pire est arrivé hier avec l'extrême droite. Alors on a l'habitude des propos de l'extrême droite israélienne qui est quand même assez atroce, mais là c'est pas l'extrême droite, c'est quelqu'un du Likoud, donc le parti de Benjamin Netanyahou, qui est la droite traditionnelle, l'équivalent des Républicains en France. Et il y a un député du Likoud qui a dit que la race juive était la plus intelligente du monde, je cite ses propos, et qu'elle possédait le plus grand capital humain. Alors je vais reciter encore ses propos, il dit « Vous ne pouvez pas berner les juifs, quoi qu'en disent les médias. Le public israélien est un public qui appartient à la race juive, et l'ensemble de la race juive a le plus haut capital humain, le plus intelligent, le plus apte à comprendre. » Alors entendre parler de race quand... on se rappelle que les juifs étaient qualifiés de race par les nazis et que ça a été combattu par tous les antiracistes à l'époque. D'abord, on le rappellera à ce fasciste que les races n'existent pas pour l'être humain. Alors ça marche aussi pour les gauchistes chez nous qui parlent de racisés. La race n'existe pas. Il y a des fois plus de variabilité génétique entre toi et moi, Delphine, qu'entre moi et quelqu'un du Soudan. Donc en fait, voilà, on est tous bien sûr homo sapiens. Sapiens, un point final. Il faudrait que... Alors, s'ils étaient scientifiques, ils seraient peut-être moins cons et ils sortiraient moins de bêtises. Donc, il est allé quand même très très loin. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de réactions en Israël quand même, après ces propos, mais il y a eu un député de la liste arabe unie, Ahmad Tibi, qui a trouvé ça horrible et qui rappelait que les nazis traitaient les juifs comme une race pendant avant la Shoah. Mais sinon, en Israël, ça n'a pas fait trop réagir, ce qui est inquiétant. Alors, ce qui est inquiétant et drôle par un certain côté, c'est que dans une interview donnée juste après, sur une télé, on lui a dit « Mais vous avez parlé de race juive ?» Il dit « Non, non, mais en fait, c'est des conneries, j'ai pas dit ça. » Et puis, ils ont rediffusé ses propos. Et là, comme il s'est senti en tort, ce député du Likoud qui s'appelle Miki Zohar, il a dit « Oui, de toute façon, je n'ai pas à rougir du fait que le peuple juif soit le peuple élu le plus intelligent, le plus spécial du monde. » On se dit, quand on a ça au Likoud, qui est un parti de droite et pas d'extrême droite, on a peu d'espoir sur Israël. Et surtout qu'il n'y a pas eu de condamnation, ni de son parti, ni de... Alors si, des gens de gauche, mais ça ne va pas loin. Et c'est très grave d'entendre ça. On se dit, comment il peut y avoir un processus de paix, un processus égalitaire, un processus un peu équitable pour résoudre la question israélo-palestinienne si des gens comme lui pensent faire partie d'une race supérieure, alors qu'il n'y a pas de race et qu'il n'y a pas de personne supérieure aux autres. Voilà. Et voilà, c'est juste un truc super inquiétant. Bon, bref, j'ai failli vomir. Voilà. Le plus triste, c'est en mémoire aux gens qui ont été assassinés par les nazis et qui refusaient cette idée de race. voilà, qui eux se retournent dans leur tombe, enfin ce qui reste, les cendres, là, les machins. Bon voilà, c'est assez triste de voir tout ça. Ce sera la fin de ce Canu Info, il nous reste 1 minute 30 pour faire un petit agenda. Moi, je vais commencer à parler de l'appel du 18 juin, mais pas juin à la façon de Gaulle, mais juin à la façon je fume du cannabis, puisque, comme d'habitude, le CIRC, le collectif d'information et de recherche cannabique, organise son appel du 18 juin. Alors, ils le décalent au dimanche 17 juin, parce que c'est un dimanche. Ils font leur fête au parc de Jalan, là, au parc des Berges. C'est dans le 7e. Je crois que c'est au métro de la halte Tony Garnier, où, et puis après, on est juste à l'entrée du parc de Jalan. Voilà, la fête pour faire changer les politiques sur le cannabis. On sait que la population a quand même pas mal évolué sur le cannabis récréatif et surtout sur le cannabis médical. Donc il y a une possibilité que ça bouge un peu. Voilà, et puis vous irez faire la fête et boire de la bière au chanvre. Vendredi soir, donc ça c'est dimanche 17 juin, vendredi soir, demain, le 15 juin, il y a une rencontre projection débat avec Esteban, un anarchiste qui vient du Venezuela, à 19h à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, donc Métro Saxe Gambetta. C'est organisé par le groupe Graines d'Anar, qui fait partie de la Fédération Anarchiste. Toujours intéressant d'avoir un regard d'extrême gauche, mais du côté anarchiste, hein, sur le Venezuela. J'ai noté que samedi, il y avait la 23e marche des fiertés. Il y aura d'ailleurs un sitting au début pour Moussa, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça part à 14h, et attention, d'habitude ça part par là, là ça part de Place Bellecour, et ça ira par les quais dans le 5e. Voilà, je le dis. Oui, tous les...
Ouais, la dernière, c'était bien déjà le départ Place Bellecour.
Je sais pas, d'habitude, je suis pas à Lyon, moi.
Ah voilà, je te le dis.
Mais avant, moi, j'ai souvenir quand ça partait.
Oui, de la part de... c'était quand t'étais jeune, mais que t'es vieux maintenant.
Quand j'étais à Lyon et que, voilà. Et tu voulais faire un dernier petit bout d'agenda?
Non, juste pour dire que sinon il y a une soirée de soutien, ça sera le lundi 25 juin au Théâtre de la Croix-Rousse. Une soirée qui s'appelle Résonance avec les musiciens de l'Orchestre National de Lyon, le Quintet Noux, un concert de soutien. Pour, c'est une entrée libre, un prix libre, voilà. Ça dure 1h30, vous pouvez réserver si vous le souhaitez ou vous pointez là-bas en espérant avoir de la place. C'est...
On soutient un collectif de migrants.
Ouais, c'est une solidarité croix-roussienne, précisément. C'est plutôt chouette que ça se passe aussi dans une grande salle qui a une belle subvention, il faut le rappeler, et qui ouvre ses portes, hein, sur la fin de sa saison et donne un accès sur un événement politique. C'est plutôt, je pense que pour les équipes qui sont en place à la Croix-Rousse, ça doit plutôt être sympathique de faire ce genre de petites choses. Voilà.
Voilà. On se retrouve peut-être la semaine prochaine sans moi. Je ne sais pas si Delphine sera là, sinon dans 15 jours. Voilà.
Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.
Il danse le mia,